Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour à tous, c'est Marine au micro de Cinérama. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission en ce mercredi 22 avril. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors Vincent n'est pas avec nous aujourd'hui dans les studios, mais il nous a néanmoins laissé une interview de Dominica, le chanteur, eh bien, qui nous parle de cinéma car il a été aussi acteur dans sa carrière. Ce sera donc une entrevue à découvrir tout à l'heure. Et toi Manu, de quoi vas-tu nous parler ?
Bien, je ne vais pas trop coller à l'actualité puisque je vais vous faire un portrait d'un réalisateur, Roger Corman, pour inaugurer un cycle où je vais évoquer quelques films par la suite dans les prochaines émissions. Et puis si on a le temps, je parlerai un petit peu d'Enfant 44.
Oui, et je vous parlerai eh bien, moi d'un film anglais qui s'appelle Une belle fin, ainsi que d'un film américano-australien de Russell Crowe, La promesse d'une vie, les deux traitant eh bien, d'enterrement. Voilà, tout dans la joie et la bonne humeur, c'est Cinérama et ça commence tout de suite.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Et on commence eh bien justement avec La promesse d'une vie de Russell Crowe. Au cours de la Première Guerre mondiale, les forces britanno-françaises affrontèrent l'Empire ottoman lors de la très meurtrière bataille de Gallipoli, du nom de la péninsule où elle eut lieu, faisant dans les deux camps des centaines de milliers de morts. Les soldats australiens, très nombreux parmi les rangs britanniques, ont vu leur histoire profondément marquée par cette hécatombe. Parmi eux, Joshua Connor, simple fermier, qui perd lors de cette bataille ses trois fils. 4 ans plus tard, sa femme, inconsolable, finit par se suicider et Joshua se promet alors de retrouver le corps de ses enfants et de leur offrir une sépulture décente.
C'était à moi de guider mes garçons à devenir des hommes et j'ai échoué.
Alors tu sais trouver de l'eau, mais tu es incapable de retrouver tes propres enfants.
3 fils, tués. C'était un véritable calvaire pour Lisa.
Je les trouverai, mon amour. Je les trouverai, je te les ramènerai.
Votre guide de voyage n'est plus à jour.
Je ne suis pas venu faire du tourisme. Je suis en route pour Gallipoli.
Il n'y a plus que des fantômes là-bas.
On a dû vous avertir. C'est une zone interdite. Et c'est dangereux. Navré, vous ne pouvez pas rester.
On peut peut-être l'aider.
Il a très peu de chances de retrouver ses garçons.
C'est le seul père qui est venu chercher.
Si vous retrouvez votre fils, que lui direz-vous ?
Au cours de sa quête qui l'entraînera loin de l'Australie, Joshua découvre que ses fils ne sont probablement pas tous morts. La promesse d'une vie s'appelait initialement The Water Diviner, autrement dit le devin de l'eau ou plus exactement le sourcier. Et pour cause, Joshua a le don de trouver l'eau et de la faire jaillir. Ce qui est pratique dans le désert australien, mais pas seulement, puisque son 6e sens pourrait bien le guider jusqu'à ses fils disparus. Russell Crowe s'octroie le premier rôle pour ses débuts en tant que réalisateur. Oui, Russell Crowe alias Maximus de Gladiator, alias Bud White de LA Confidential, alias Robin des Bois, alias Noé. Russell Crowe qui à nouveau interprète son traditionnel personnage de sauveur, mais cette fois en s'essayant à la réalisation. Australien et hollywoodien d'adoption, Russell Crowe a du mal à s'éloigner du cahier des charges des blockbusters classiques, un peu comme Ryan Gosling qui, lorsqu'il passe derrière la caméra, semble vomir sur pellicule tout ce qu'il a appris en tournant comme acteur. Russell Crowe imite mécaniquement et sans inspiration les succès de sa filmographie dans un mélange d'action et de mélodrame. L'aspirant réalisateur traite avec un académisme évident cet épisode historique, en y ajoutant une dimension quasi fantastique, relativement intéressante, bien qu'un peu tirée par les cheveux. Ajoutons à cela une romance improbable avec une veuve turque qui va bien sûr remettre en question les préjugés de chacun sur le peuple de l'autre et les faire s'interroger sur le bien fondé de la guerre. Et le tableau achève d'être indigeste. Au diable la crédibilité, on retrouve donc la top modèle et ex-James Bond girl Olga Kurylenko dans le rôle de la pauvre Turque, car comme d'habitude, les Américains ne voient aucun problème à faire jouer une Turque par une Ukrainienne. Alors il y a tout de même quelques scènes de bravoure hein, plutôt impressionnantes à retenir dans le film, pas vraiment palpitant, mais qui remplit son devoir de grande fresque historique. Et qui, détail important pour une production hollywoodienne, eh bien, ne dépeint pas les étrangers comme des sauvages. Et ça, c'est pas fréquent. Donc voilà, après, je dirais que c'est un des rares points positifs de ce film. C'est loin d'être un AV, mais c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait grand bruit. C'est sorti vraiment dans la discrétion la plus totale. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller le voir.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama...
Je suis allergique.
On ne s'en rend pas toujours compte de l'importance cruciale qu'a joué Roger Corman dans l'industrie cinématographique. Alors, si son nom reste attaché à toute une tripotée de séries B ou Z, mettant en scène aussi bien alors, des plantes carnivores, des crabes géants, des dinosaures, des femmes mutantes et j'en passe, il fut un producteur dénicheur de talent hors pair. Alors, passer par la case Corman semble être la meilleure option pour devenir un cinéaste de renom. Il faut dire que le père Corman est particulièrement intransigeant avec ses poulains. Un budget ridicule, un calendrier de malade et une série de plans foireux sont offerts sur un plateau pour commencer à faire ses armes. Alors, en plus, fidèle à sa réputation de pingre, Corman ne vous lâche pas un sou. En gros, vous travaillez à l'œil comme si vous étiez à l'école ou en formation prolongée. Alors, de telles méthodes draconiennes peuvent paraître paradoxales quand on connaît les penchants gauchistes et contestataires du pape de la série B. Alors, gauchistes, oui, mais ne perdons jamais de vue le fait que le cinéma reste avant tout une industrie. Les grandes œuvres artistiques, exigeantes et splendides, intéressent Corman en tant que spectateur. Alors, homme de goût, intelligent et cultivé, il apprécie beaucoup le cinéma européen. Alors, et en tant que producteur, investir dans une œuvre classée art et essai n'est pas dans sa politique. Trop attaché en fait à ne pas perdre d'argent et à tourner le plus rapidement possible. Alors heureusement, une telle conception du cinéma n'est pas balayée d'un revers de la main, ce serait une vision trop manichéenne. Le souci commercial et de rentabilité n'est pas contradictoire avec celui du travail bien fait et une passion pour les délires pelliculés. Alors Corman possède un savoir-faire inouï, désireux de le faire partager. En grattant un peu, une personnalité complexe en somme se dégage, à la fois radine et généreuse, progressiste et capitaliste, féministe et érotomane, ce qui n'est pas contradictoire en même
Absolument
temps.
Hein.
Voilà. Bref, il semble tortueux de cerner l'auteur de la petite boutique des horreurs. Corman découvre quand même, je peux en citer, des gens comme Coppola, comme Dante, comme Cameron. Alors au moment où sort Dementia 13, petit film d'épouvante d'inspiration gothique, qui est quand même signé Francis Ford Coppola en 1963, il est difficile d'envisager que le jeune cinéaste, alors promu metteur en scène officiel, réalisera 15 ans plus tard le monumental Apocalypse Now. Même topo pour le ringard Piranha 2, les tueurs volants, que commet un certain James Cameron. Alors avant cette expérience, il s'occupait en tant qu'assistant des effets spéciaux, notamment sur New York 97, il me semble. La suite de l'excellent opus de Joe Dante fut tournée en Italie avec une équipe ne pipant pas un mot d'anglais. Pas vraiment familier avec la langue de De Vinci, James Cameron eut un mal fou à se faire comprendre. Je crois qu'il a même fallu prendre un metteur en scène italien pour communiquer avec les techniciens. Enfin, apparemment, c'était assez folklorique. Alors, le résultat, évidemment, est ultra bis et souvent foireux, mais on sent déjà un savoir-faire et certains thèmes récurrents. La liste ne s'arrête pas d'ailleurs à ces deux cinéastes prestigieux, puisque Corman a donné sa chance aux réalisateurs suivants, hein, Monty Hellman, Ron Howard, Jonathan Demme, alors Joe Dante bien sûr, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, dont un film va sortir la semaine prochaine, Paul Bartel, Jonathan Kaplan. Les petits-enfants de l'oncle Corman jouent pour la plupart dans la cour des grands. Il n'y a guère que Monty Hellman et Paul Bartel, pourtant deux auteurs majeurs à redécouvrir d'urgence, qui soient un peu restés dans l'ombre. Alors, outre l'absence de budget, une production Corman est tributaire de quelques principes immuables. Alors, des femmes nues, hein, ou à demi-dévêtues, ça, demi-dévêtues, c'est pour les années 50, de la violence et une intrigue rectiligne à consonance sociale. Né en 26 à Détroit, Corman débute d'ailleurs sa carrière en tant qu'agent littéraire. Désireux de percer dans une veine plus artistique, il vend un scénario à Higway Dragnet en 1954. Frustré par les romanimos imposés sur son script par la firme Alien Artist, il décide de devenir producteur avec Monster from the Ocean Floor et suivi de The Fast and the Furious, qui n'a rien à voir avec... non mais c'est vrai, qui n'a rien
avec
à
Fast
voir...
Fast and Furious dont tu nous as parlé
ouais,
la semaine dernière.
Voilà, et il a été producteur d'un Fast and Furious en 1954. Il va ainsi conclure un accord de distribution avec l'AIP, qui est l'American International Pictures, qu'il crée en compagnie de deux collaborateurs précieux, Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson. Ces derniers l'accompagneront dans son travail pendant une bonne quinzaine d'années. Il passe réellement en fait, derrière la caméra en 1955 avec un western en pâté color, Five Guns West. Il enchaîne l'année suivante avec un autre western, The Apache Woman, l'un des premiers westerns ouvertement pro-indiens. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Corman n'a pas commencé par le fantastique ou la science-fiction. Le western lui a permis d'entrer, d'imposer sa marque de fabrique opportuniste, mais aussi profondément underground et anti-hollywoodien, avec des personnages ambigus, des intrigues linéaires sous-tendues par des revendications sociales des mises en scène assez sèches et précises et le goût pour les effets spéciaux et les décors rudimentaires. Alors, un éclectisme et une soif de prolétisme anime Corman. À partir de 1955, la machine est lancée. À côté de sa fonction de producteur, Corman va mener une riche période de réalisateur jusqu'en 1971. Il reviendra d'ailleurs en 90, il réalisera quand même un film, mais voilà, il s'est vraiment arrêté en 71, signant près de 60 films en 16 ans. Il abordera de front tous les genres existants sur le marché du cinéma d'exploitation, la science-fiction post-atomique avec l'attaque des crabes géants, le fantastique préhistorique, Teenage Caveman, l'heroic fantasy, The Saga of the Viking Woman. Il parlera le brûlot politique avec The Intruder, le film de gangster, Mitraillette Kelly, l'épouvante gothique, The Undead, ou le cycle consacré à Edgar Poe, la comédie noire avec la petite boutique des horreurs, le drame de teenager avec Sorority Girls, le trip filmique sur la drogue, The Trip. D'ailleurs, une petite anecdote sur The Trip. Il s'est lui-même, lui qui ne se droguait jamais, il s'est lui-même drogué pour connaître les effets, pour avoir conscience de ce que ça pouvait faire réellement.
Quelle et conscience professionnelle.
Et il a imposé son équipe de se droguer aussi. Ce qui est quand même assez rare. Hein. Bref, rien n'effraie Corman, toujours prêt à se lancer dans les entreprises les plus folles et opportunistes. Alors, pour le plaisir, on va écouter un petit extrait d'un de ses films évidemment les plus célèbres, puisqu'il il y en a eu un remake en 86, c'est La petite boutique des horreurs avec sa fameuse plante carnivore. Mais dans le cas présent, il s'agit d'une séquence de dentiste.
Oh, oh, ça fait mal. Ouais. Eh bien, c'est rien à côté de ce qui t'attend. Hein.
Alors, c'est ce que j'ai par là.
C'est Moore. C'est qui le dentiste ici, toi ou moi? Je vais la trouver, cette dent. On ouvre. Regarde-moi ça, une véritable stalagmite. On se détend, ça va être un vrai jeu d'enfant, Seymour. Pas besoin d'anesthésiant.
Ah, vous avez laissé tomber un truc dans ma bouche.
Arrête un peu de te plaindre, imbécile, t'as qu'à avaler. À la bonne heure, allez, à nous deux, Seymour. Je vais donc arracher celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, il me la faut.
J'ai juste mal à une dent.
Seymour, c'est qui le dentiste, toi ou moi? Ne me dis pas que tu pratiques dans l'illégalité, hein? Au travail. Voyons voir. Chut, Seymour, Seymour, ne sois pas une poule. Regarde ça. Non mais tu veux regarder ça, Seymour. Je savais pas que t'étais un élan, c'est fou. Tu sais, je n'ai pas les moyens d'engager une assistante, alors j'ai commandé cet amalgame instantané en poudre. Il ne dure pas longtemps, mais il a bon goût. Miam, miam. Voilà, c'est prêt, c'est mort.
Hey, ne vous approchez pas de moi.
Allons bon, le
poisson. Vous ne souhaitez rien d'autre que ma main.
À nous deux, mon gaillard. On garde, là.
Alors, pour l'info, dans la petite boutique des horreurs, parce qu'il n'a pas fait que découvrir des cinéastes, mais aussi des comédiens, il a fait, grâce à Corman, la carrière de un certain Jack Nicholson a pu démarrer également. Alors, en 71, il abandonne la mise en scène, préférant entièrement se consacrer à la production. Il va créer la compagnie New World Pictures. C'est à cette époque, au cœur du nouvel Hollywood, qu'il donnera sa chance à une multitude d'apprentis cinéastes et produira quelques œuvres cultes, dont Le Box Aberta de Martin Scorsese et La course à mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Alors, parallèlement, la New World distribuera, durant les années 70, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très cinéphile, le cinéma d'auteurs européens, notamment les œuvres de Bergman et de Godard, ce qui peut paraître étonnant. Alors, l'explosion de la vidéo va... En 83, Corman va vendre la New World, pourtant loin d'être déficitaire, il va avoir beaucoup de difficultés à remonter, mais l'explosion de la vidéo va le sortir de l'impasse, va le remettre en selle. Il va créer New Concord, firme uniquement destinée à la vidéo et aux chaînes câblées. Alors, il n'y aura pas de gros cinéastes importants qui vont émerger. Ce sera là de la pure série B, voire carrément de la série Z. Il va donc enchaîner, on va dire, les bisseries comme on enfile les perles à près d'une quarantaine, cinquantaine par an. Mais... Alors, cette période n'est peut-être pas hyper intéressante, mais ça n'empêche que ça reste l'un des producteurs les plus importants, je pense, de l'histoire du cinéma. Et on va peut-être finir par un court extrait d'un de ses films les plus formidables, qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge.
Étrangler ces hommes.
Non, je vous en supplie. Pitié, 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 j'en pleure. Ah!
C'est à moi qu'elle parlait. Quel est ton nom?
Francesca.
Qu'attends-tu de moi, Francesca?
Je vous en supplie, prince, il faut que vous leur pardonniez.
Non, c'est impossible. Ils ont défié leur maître. Si mes chiens mordaient la main de celui qui leur offre leur nourriture avec amour, devrais-je aussi me montrer clément?
Je vous en supplie, pardonnez-leur.
Qu'on est innocent à ton âge. Cependant, je suis prêt à montrer que je peux faire preuve de justice et de pitié. Je te laisse le soin de décider, Francesca. Je dois en punir un. Mais lequel? Choisis celui qui va mourir.
L'un d'eux est mon père. L'autre est l'homme que j'aime.
Vous aviez promis que l'on s'amuserait.
Voilà. Donc, la semaine prochaine, je débuterai donc le cycle Corman avec son premier western. Donc j'en parlerai sur peut-être quelques émissions et j'essaierai de faire un petit panorama de ce qu'il a pu faire dans des genres variés.
Eh bien merci Manu, on va enchaîner avec l'interview, c'est toujours Cinérama.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire?
Dominique A vient de sortir un dernier album, Eleor, et sera en concert ce jeudi 23 avril à Nîmes. Le chanteur était venu au Rockstore de Montpellier en 2009 et avait bien voulu parler un peu cinéma, de sa prestation dans Peau de cochon, de son copain Philippe Catherine, du nom de son premier groupe emprunté à Elephant Man ou encore de son intérêt pour un cinéaste français aux frontières de l'expérimental Philippe Gandrieux. Voici un petit entretien avec Dominique A et c'est réalisé par Vincent.
Dieu que cette histoire finit mal.
Je m'appelle Dominique A, je suis chanteur.
On n'imagine jamais très bien.
J'ai fait cet album en juin 81, je crois, donc j'avais 12 ans, presque 13 ans.
Presque 13 ans.
J'avais pas mué encore, c'est sûr.
L'album s'appelle Sentimentum.
Sentimentum Pensum.
Ouais.
On vous a vu donc dans le film de Philippe Catherine, ouais. Peau de cochon. Vous faites quasiment l'ouverture du film, vous faites écouter une petite cassette où ouais. vous avez 14 ans, vous chantez. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est pas étonnant que Dominica a réussi à faire ce qu'il a fait. Est-ce que vous, ça vous a étonné de vous réentendre?
Si pouvait exister une machine à oublier.
Mais étonné, non, parce que je connaissais bien cette cassette. Ça a plus étonné les autres, mais... Non, par rapport à ça, c'est Philippe qui avait entendu, une fois je lui avais parlé de ces fameuses cassettes, on tournait ensemble, c'était dans les années 95, et il m'a tanné pendant des années pour les écouter, et quand je lui ai fait écouter, ça, il adorait, parce qu'il adore tout ce qui est brut, et art brut en général. Et après, quand l'idée de son film est née, il m'a tanné à nouveau pour faire une séquence, moi je savais même pas qu'il faisait un film de fiction, il me disait voilà, on m'a filé une caméra, c'est Arte, tout. Je dis voilà, autre chose à faire quoi. Et puis il m'a soudoyé avec deux bouteilles de champagne de chez Lidl, et puis. Et puis voilà, et puis en fait, après, je dirais, la façon, c'est marrant la façon dont les gens ont pris la scène, parce que moi, ces cassettes, je les connaissais bien. Je les ai réécoutées, c'était pas une redécouverte pour moi. Et c'est rigolo parce que les gens, ils voient quelque chose d'assez. Et émouvant quoi, et assez comme une vraiment quelque chose qui me sauterait à la gueule, alors que moi j'avais l'impression d'être simplement de réécouter quelque chose que je connaissais bien. Mais après bon, c'est sans doute qu'il y a un truc qui échappe, et c'est ce qui fait que la scène est marquante peut-être. Enfin, moi je peux pas dire qu'elle est marquante, ça ne m'émeut pas personnellement.
En tout cas, il y a quelque chose qui passe à l'écran, ouais, comme vous dites doute. Effectivement,
c'est marrant parce qu'on retrouve un peu le c'est ton style de mélodie, un peu.
Mon univers.
Hein ? Complètement, ouais.
C'est vrai.
Et voici, messieurs et mesdames, le terrible homme éléphant.
Cet homme est atteint de crétinisme total. Enfin, je le souhaite. Mais supposons un instant qu'une intelligence soit prisonnière de ce corps monstrueux.
Alors votre premier groupe, il s'appelait John Merrick, donc en référence au personnage de David Lynch. Voilà, alors c'est peut-être pas vous qui avez choisi le nom du groupe,
si.
Mais...
Si, voilà, expliquez-vous là-dessus alors.
Bah, je me sentais bien dans la peau de l'homme éléphant. Bah non, mais en fait, j'adorais le personnage, j'étais fan de ce film-là, puis j'étais adolescent aussi, il y avait le côté... un peu Calimero, vilain petit canard, enfin côté martyr un peu, qui seul contre tous, qui à la fin choisit sa mort. Enfin, il y avait quelque chose de très fort qui était très hyper raccord avec toutes nos thématiques new wave de l'époque. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film qui m'a un mélo qui m'a marqué énormément. Enfin, c'est un très beau film, je trouve. Et mes chansons, nos chansons, on était déjà très très mélos, quoi.
Ce n'est pas la peine de rester plus longtemps, va-t'en si tu m'aimes. Tu partiras à temps avant que je ne redevienne quelqu'un d'horrible, de méchant que l'on traîne comme un souvenir douloureux.
Est-ce que vous vous nourrissez de cinéma? Est-ce que vous êtes cinéphile?
Non, je suis pas cinéphile. Je peux être très réceptif, là. Très réceptif, pardon. Le problème, c'est que je suis trop réceptif. Et je me méfie, quand je vais au cinéma, souvent j'ai une hostilité de principe vis-à-vis du film. C'est-à-dire que je vois les premières images et je suis comme ça et je trouve que c'est trop vivant. C'est trop incarné, c'est trop violent. Et de ce fait-là, il faut vraiment que je me laisse embarquer ou que le film me saute à la gueule. Et ce qu'il y a de pire, ce que je déteste, c'est d'être pris en otage. Je suis pris en otage tout le temps par mes émotions au cinéma. Et notamment avec les pires films, les films les plus ringards, je chiale pour un rien, quoi. Et je déteste ce sentiment-là. Je déteste ça. Je déteste sentir ce truc qui vient et je sais que ça va venir. Je déteste ça. Et pour ça, je vais au cinéma de temps en temps voir plutôt des bons films. Enfin, a priori des films d'auteur, pas tellement. Je suis pas tellement allé voir le dernier truc américain. Voilà, bon, avec mon fils. Bon.
J'ai été conçu. Pour sauver le monde.
J'aurais pu avoir un bon regard de cinéphile, ouais, je crois. Si j'avais été moins... si ça me prenait moins en otage, quoi, justement. Si l'image me... Et je peux pas me défendre de l'idée, des fois, face à un écran, de perdre mon temps. C'est très bizarre. Autant face à un bouquin, j'ai jamais l'impression de perdre mon temps. Même le bouquin le plus médiocre. Autant, même face à un bon film, des fois, je peux avoir la sensation de perdre mon temps. Parce que vis-à-vis des images, je suis très... des images animées, je suis méfiant, je suis en position un petit peu d'hostilité, ouais. C'est marrant. Bon, cela dit, j'aime bien voir des films, hein, mais c'est ce qui fait que j'y vais pas plus, je crois.
J'ai tout essayé, j'ai pas trouvé le sens. J'ai cherché dans la rue, j'ai écrit.
On m'a dit que vous aviez un auteur fétiche, mais j'ai pas retenu le nom de Reiset.
Oui, ça devait être Grand Rieux, mais Grand Rieux surtout pour sombre en fait, parce que ben, j'aime bien un lac, mais j'aime plus en fait le traitement. Avec cette même façon de filmer les choses, je rêverais de voir un film de Grand Rieux avec un autre propos en fait. Même type d'image, mais avec quelque chose que ça raconte autre chose. Ce qu'il raconte ne m'intéresse pas vraiment, en fait.
Moi, le mien, il est mort il y a 2 ans. Il était gentil. Il s'occupait bien de nous. Il adorait notre fille aînée. Puis il aimait aller à la pêche avec ses copains. Il buvait pas trop. Et puis il était beau. Mais vous voyez, c'est bizarre. Je crois que je l'ai jamais aimé.
Mais j'adore la façon dont il le raconte, enfin la forme.
Mais on comprend que ça vous remue quand même, Grandrieux, parce que c'est un cinéma très sensoriel, avec des images qui sont plutôt dures.
Ouais, mais en fait, j'aime bien quand c'est... J'adore quand c'est pictural, en fait, le cinéma. J'adore quand... Alors, j'avais vu des choses... Pareil, Sokurov, je me suis assez ennuyé devant Mère et Fils, mais il y avait des choses... C'était magnifique sur le plan pictural. C'est vrai que j'ai du mal avec... j'aime bien voir un Chabrol, par exemple, mais là, je peux avoir l'impression de perdre mon temps, parce qu'au niveau de l'image, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Quoi. Enfin, les trucs de mise en scène pure, moi...
Je ne peux pas m'en empêcher, ça me vient comme un cauchemar.
Je peux pas respirer jusqu'à ce que je l'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai enfoncé mon couteau.
Faut que ce soit plastique pour que ce, ça me marque vraiment. Donc, évidemment, je connais pas le cinéma de Lynch à fond les ballons. Et c'est pour ça que Elephant Man m'a tant marqué aussi. C'est que plastiquement, quand, moi j'ai vu ça à 12 ans, j'avais jamais rien vu de pareil.
I am not an animal! I am a human!
Après, ça suffit pas. Par exemple, le Bellatar, sa boîte plastique, je trouve ça caricatural. Et à part la scène des harmonies,
amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból.
Les 10 premières minutes sont splendides. Et après, je trouve qu'on vit, c'est de la caricature de cinéma d'auteur pour moi. Il y a de très bonnes idées, il y a de très belles images, mais il y a des choses pas possibles, quoi, genre. C'est pour ça que Grand Rieux, j'en parle assez volontiers, parce que c'est surtout en fait chez lui, ce qui est marquant, je trouve, c'est que c'est à la fois complètement artificiel, ce tremblay, cette espèce de flou, mais et en même temps on a l'impression qu'on est dans les entrailles de la Terre. Je sais pas, ça me donne vraiment ce sentiment-là, on sent vraiment les plaques tectoniques vibrer sous nos pas. J'adore, et c'est un truc qu'on ne sent pas du tout dans le cinéma en général, le cinéma français. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter parce que.
Merci.
J'ai un petit truc à faire.
Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer.
Voilà, c'était un entretien réalisé par Vincent, et donc à la prise de son, c'était Manu Plaza.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et nous allons donc terminer cette émission avec un film au titre très à propos, Une belle fin. John May a un travail peu ordinaire qui le passionne lorsqu'une personne sans famille connue vient à décéder. C'est lui qui est en charge de retrouver quelques proches du défunt afin de rendre ses funérailles un peu plus vivantes. Il est un peu le Amélie Poulain des cimetières, se mettant en quatre pour offrir au Maccabée solitaire un enterrement digne de ce nom, quitte à choisir lui-même le cercueil qui aurait pu plaire au défunt et à rédiger son oraison funèbre. En résumé, il est le garant, pour ceux qui finissent leur vie seuls, d'avoir tout de même droit à une belle fin. Si le sujet peut paraître sinistre, il est d'ailleurs inspiré d'un vrai croque-mort à l'intégrité professionnelle jusqu'au boutiste, Une belle fin est paradoxalement plein d'humanité et de vie. Le titre original est d'ailleurs Still Life, que l'on pourrait traduire par La vie, toujours. Umberto Pasolini, qui n'a rien à voir avec le réalisateur italien bien connu, mais qui a fait ses armes dans le cinéma anglais en produisant The Full Monty, s'intéresse ici à la solitude de notre monde capitaliste dans lequel nous n'avons jamais été aussi nombreux à être aussi seuls. Eddie Marsan interprète l'un des premiers rôles de sa carrière, et pas des moindres. Celui que l'on avait connu dans des seconds rôles toujours à tendance plus ou moins psychopathe est à la fois surprenant et tout à fait convaincant en misanthrope délicat. Quant à la mise en scène, elle est à l'image de son héros, méticuleuse, attachante, mais un peu trop propre. Elle serait définitivement délicieuse si elle se dotait d'un grain de folie. Mais sa lenteur assumée et ses cadrages minutieux, à défaut de rendre le film passionnant, le rendent plus ou moins fascinant. Une belle fin est en définitive une œuvre plutôt optimiste, un film sur les deux peurs les plus prégnantes de l'être humain, la mort et la solitude, qui parvient pourtant à éviter pesanteur et gravité. Un seul bémol, eh bien la fin, non pas belle comme le voudrait le titre, mais étouffante de bien-pensance et à deux doigts de basculer dans la symbolique lourde qui achève malheureusement le film de façon mitigée. Donc une belle fin, je pense que ça ne va pas rester très très longtemps en salle, donc allez quand même le voir, c'est une jolie découverte.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous serons de nouveau tous les trois réunis. On va vous parler de The Avengers, on va vous parler de nouveau Emmanuel Mouret. Manu, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, du Corman.
Toujours
du Corman.
Ton cycle.
Voilà, je commencerai mon cycle. Et puis, certainement The Avengers, ouais.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.